3. Les Palantiri. Les Palantiri ne furent certes jamais d'usage courant ni de notoriété publique, même à Nouménor. En Terre du Milieu, on les tenait enfermés dans des chambres fortes, en haut de puissantes tours, où, hors leurs gardiens attitrés, les rois et souverains avaient seul accès. On ne les consultait ni ne les exposait jamais aux vues de tous. Mais tant qu'il y eut des rois, les Palantiri n'avaient rien de sinistre ou de secret. Leur utilisation n'entraînait aucun danger, et le roi, ou quiconque avait autorité pour les interroger, n'aurait jamais hésité à révéler la source de son savoir quant aux actes et opinions des souverains éloignés, pour peu que ce savoir lui vînt des pierres. Passé le temps des rois et Minas Ithil perdu, il n'est plus fait mention des pierres et de leur utilisation officielle et à la vue de tous. Après le naufrage d'Arvedui le dernier roi, en l'année 1975, il ne resta plus de pierres de vision dans le nord. En 2002, la pierre d'Ithil disparut, et seules demeurèrent alors la pierre d'Anor à Minas Tirith et la pierre d'Orthanc. Il y eut deux raisons à l'abandon des pierres et au fait que leur souvenir même devait s'oblitérer parmi le commun. La première reposait sur l'ignorance de ce qu'il était advenu de la pierre d'Ithil. On a admis, non sans vraisemblance, qu'elle avait été détruite par les défenseurs de Minas Ithil au moment de sa chute et du sac qui s'ensuivit. Mais il se pouvait aussi qu'elle ait été capturée et se trouva en la possession de Sauron. Et certains, plus sagaces et perspicaces, y ont certainement songé. Mais considérant la chose, il leur apparut que la pierre ne pouvait guère servir Sauron dans sa volonté de nuire au Gondor, à moins qu'elle puisse établir le contact avec une autre pierre avec laquelle elle était en accord. Et pense-t-on, c'est pour cela que la pierre d'Anor, dont il n'a jamais fait mention par les intendants jusqu'à la guerre de l'Anneau, était conservée et gardée fort secrètement, accessible seulement à l'intendant régnant, et dont aucun, semble-t-il, ne fit usage jusqu'à Denethor II. La seconde raison de cette perte de mémoire tint à la décadence du Gondor et au déclin de l'intérêt pour tout savoir ayant trait à l'histoire ancienne chez presque tout le monde, hormis quelques grands royaumes, et encore, uniquement en ce qui concernait leur généalogie, leurs ascendances et leur parenté. Le Gondor, après le temps des rois, devait sombrer en une sorte de Moyen-Âge, où le savoir alla s'appauvrissant et où les techniques se firent rudimentaires. Les communications étaient entièrement assurées par des messagers ou par des courriers à cheval, et dans les cas d'extrême urgence, par des feux d'alarme, et si les pierres d'Anor et d'Orthanc étaient encore précieusement conservées comme un trésor légué par le passé, dont l'existence demeurait connue d'un tout petit nombre, presque plus personne n'avait souvenance des sept pierres d'antan, et à supposer même qu'on s'en soit souvenu, les couplets traditionnels où elles étaient nommées dépassaient la compréhension de tous. Leur capacité était maintenant à faire de légendes, qui les imputaient aux anciens rois elfes à la vue perçante, assistés par les vifs esprits ailés qui leur mandaient les nouvelles et portaient leurs messages. À cette époque, les intendants semblaient avoir perdu, et depuis fort longtemps, tout intérêt pour la pierre d'Orthanc. Elle ne leur servait plus à rien, et elle était en sûreté dans sa tour inexpugnable. Et quand bien même n'aurait point pesé également sur elle le doute qui planait sur la pierre d'Ithil, elle se trouvait désormais dans une région dont le Gondor se souciait de moins en moins. La population du Calenardon, depuis toujours fort clairsemée, avait été décimée par la peste noire de 1636. Et la région s'était peu à peu vidée de ses habitants d'ascendance nouménoréenne qui émigrèrent en Ithilienne et dans les contrées proches de l'Anduin. Isengard demeura propriété personnelle des intendants, mais Orthanc même ne fut plus habité. Et un jour vint où l'on ferma la tour et où l'on apporta les clés à Minas Tirith. Si Beren l'intendant s'était même posé la question de la pierre, lorsqu'il remit les clés de la tour à Saruman, sans doute pensa-t-il qu'elle ne pouvait se trouver en meilleure main qu'en celle du chef du conseil qui luttait contre Sauron. Au cours de ses recherches, Saruman avait très certainement acquis une connaissance particulière des pierres, lesquelles ne pouvaient manquer d'attirer son attention. Et il était convaincu que la pierre d'Orthanc était encore intacte dans sa tour. Il prit possession des clés d'Orthanc en 2759, nominalement en tant que gardien de la tour et lieutenant de l'intendant du Gondor. À cette époque, le Conseil Blanc ne se souciait guère de la pierre d'Orthanc. Saruman était le seul qui, ayant gagné la faveur des intendants, avait suffisamment étudié les annales du Gondor pour comprendre l'intérêt des Palantiri et les utilisations possibles qu'offraient ceux qui subsistaient. Mais il en souffla mot à ses collègues. Et sa jalousie et sa haine à l'encontre de Gandalf étaient telles qu'il cessa de participer au conseil qui se réunit pour la dernière fois en 2953. Sans aucune déclaration officielle, Saruman s'empara alors d'Isengard et en fit sa propriété sans plus tenir compte du Gondor. Le conseil, à n'en point douter, désapprouva la chose. Mais Saruman était libre de ses décisions et il avait le droit, s'il le souhaitait, d'agir à sa guise, selon sa propre politique, pour résister à Sauron. Sans doute le conseil, en tant que tel, connaissait-il de son côté l'existence des pierres et leurs anciennes propriétés. Mais il ne leur attachait pas grande importance dans la conjoncture de l'époque. C'étaient des choses qui appartenaient à l'histoire des royaumes des Dunedain, des choses merveilleuses et admirables en soi, mais perdues pour la plupart, ou d'un usage désormais peu probant. On se souviendra qu'à l'origine, les pierres étaient innocentes et ne servaient aucun dessein maléfique. C'est Sauron qui en fit des objets sinistres et des instruments de domination et de tromperie. Bien que le conseil, averti par Gandalf, ait peut-être commencé à suspecter les intentions de Saruman en ce qui concernait les anneaux, personne, pas même Gandalf, ne savait qu'il était devenu l'allié, voire le serviteur de Sauron. Cela Gandalf ne devait le découvrir qu'en juillet 3018. Mais si dans les récentes années, Gandalf avait approfondi ses propres connaissances historiques du Gondor et celles du Conseil, à travers l'étude des annales du royaume, l'anneau n'en demeurait pas moins l'objet de leur sollicitude à tous. Ils ne concevaient ni les uns ni les autres les possibilités latentes des pierres. À l'époque de la guerre de l'anneau, il est clair que le Conseil venait à peine de s'apercevoir des incertitudes quant au sort de la pierre d'Ifil, et, comme on pouvait s'y attendre de la part de gens à ce point écrasés de soucis, tels Elrond, Galadriel et Gandalf, ils ne parvinrent pas à considérer le fait à sa juste valeur, ne songeant pas à ce qui pourrait se passer si Sauron s'emparait de l'une des pierres et que quelqu'un s'avisait d'en sonder une autre. Il fallut la démonstration à Dol Baran des effets de la pierre d'Orthanc sur Peregrin pour que soit soudain mis en évidence le lien entre Isengard et Barad-dûr. Lien avéré lorsqu'on s'aperçut que pour attaquer la fraternité à Parth Galen, aux forces d'Isengard, s'étaient jointes d'autres forces sous le commandement de Sauron. Et que ce lien n'était autre que celui noué entre la pierre d'Orthanc et un autre Palantir. Lorsque montés tous deux sur Scadufax après avoir quitté Dol Baran, les deux tours, 3-2, Gandalf s'entretient avec Peregrin, ne cherchant dans l'immédiat qu'à donner au Hobbit quelque idée de l'histoire des Palantiri, afin que celui-ci puisse au moins entrevoir la vénérable ancienneté, l'éminente dignité et les grands pouvoirs de la chose qu'il avait tenté de manipuler. Gandalf ne tenait nullement à dévoiler son propre cheminement, ses découvertes et ses déductions, sauf en sa conclusion. Montrer comment Sauron était venu à contrôler les pierres, de sorte que l'usage en était dangereux pour quiconque, fût-il de la plus haute volée. Mais en même temps, Gandalf songeait sérieusement aux pierres, s'efforçant d'évaluer la portée des révélations survenues à Dol Baran quant à certaines choses dont il avait fait observation ou objet de méditation, telle la surprenante connaissance des événements lointains que possédait Denethor et son aspect prématurément vieilli, perceptible chez lui alors qu'il avait à peine dépassé la soixantaine, et ce bien qu'il appartint à un peuple et à une famille jouissant encore normalement d'une plus grande longévité que le commun des hommes. Nul doute que la hâte de Gandalf d'atteindre Minas Tirith, outre l'urgence du moment et l'imminence de la guerre, fut avivée par la crainte soudaine que Denethor n'eût lui aussi interrogé un Palantir, la pierre d'Anor, et par le désir de juger quel effet cela avait produit sur lui. Et en particulier, si, dans l'épreuve cruciale d'une guerre désespérée, on n'allait pas découvrir que Denethor, à l'instar de Saruman, n'était plus un homme de confiance et qu'il se laisserait asservir par le Mordor. Et c'est donc à la lumière de ce doute éveillé dans l'esprit de Gandalf qu'on doit considérer tout ce qui intervint entre lui et Denethor à son arrivée à Minas Tirith et dans les jours qui suivirent, et tout ce qui fut rapporté de leur conversation. L'importance qu'accordait Gandalf au Palantir de Minas Tirith datait donc seulement de l'aventure survenue à Peregrin à Dol Baran. Mais naturellement, sa connaissance ou ses conjonctures touchant l'existence même de la pierre étaient bien antérieures. On ne sait pas grand-chose des mouvements de Gandalf jusqu'à la fin de la paix vigilante, 2460, et la formation du Conseil Blanc, 2463. L'intérêt privilégié qu'il porta au Gondor semble s'être manifesté seulement après que Bilbo eut découvert l'anneau, de 1941, et le retour explicite de Sauron au Mordor, en 1951. À cette époque, l'anneau d'Isildur était le souci premier de Gandalf, comme d'ailleurs de Saruman. Mais on imagine volontiers que sa lecture des archives de Minas Tirith lui a pris beaucoup de choses sur les Palantiri du Gondor, bien qu'il ne semble à point avoir apprécié leur portée réelle aussi promptement que Saruman, dont l'esprit, différent en cela du sien, était attiré par les instruments et organes de pouvoir plutôt que par les individus. Pourtant, Gandalf en savait déjà bien plus long que Saruman sur les origines véritables et sur la nature des Palantiri, car tout ce qui concernait l'ancien royaume de l'Arnor et l'histoire ultérieure de ces régions relevait de son domaine privilégié, et il était proche allié d'Elrond. Mais la pierre d'Anor était devenue secrète. Après la chute de Minas Ithil, il n'est fait nulle mention de son sort dans les annales et chroniques des intendants. Or, il semble historiquement prouvé que ni Orthanc ni la tour blanche de Minas Tirith n'aient jamais été prises ou mises à sac par les ennemis, et on a donc tout lieu de croire que les pierres étaient intactes et qu'elles se trouvaient en leurs sites anciens. Mais il se peut aussi que les intendants les aient fait enlever et peut-être enfouis profondément en quelque secrète chambre au trésor ou même au fin fond de quelque cache montagneuse telle Dunhart. On aurait cité Gandalf disant qu'il ne pensait pas que Denethor eut l'audace de l'utiliser tant que sa raison ne déclinait pas. Il ne parvenait pas à concevoir quand et pourquoi Denethor prit sur lui d'interroger la pierre, et cela reste encore matière à conjecture. Gandalf pouvait bien avoir son idée sur le sujet, mais étant donné la personnalité de Denethor et ce qu'on raconte de lui, on peut admettre qu'il commença à utiliser la pierre d'Anor des années avant 3019 et bien avant que Saruman se soit hasardé ou ait jugé utile de sonder la pierre d'Orthanc. Denethor avait succédé à la fonction d'intendant en 2984, à l'âge de 54 ans. C'était un homme de grande autorité, avisé et cultivé, au-delà du commun de son époque, et un homme résolu, sûr de lui et de caractère intrépide. Ce n'est qu'après la mort de sa femme, Finduilas, en 2988, que son entourage vint à constater chez lui les premiers signes d'austérité. Mais on a tout lieu de croire qu'il s'était adressé à la pierre dès qu'il avait accédé au pouvoir, ayant longtemps étudié la question des Palantiri et toutes les traditions les concernant, les pierres et leur utilisation, dans les archives particulières des intendants, accessibles seulement à l'intendant en exercice et à son héritier. Vers la fin du règne de son père, Ectalion II, il dut concevoir le vif désir de consulter la pierre, tandis qu'au Gondor l'inquiétude s'avivait et que sa propre position se trouvait minée par la gloire de Thorongil et la faveur que lui accordait son père, l'intendant. Un au moins de ses motifs dut être sa jalousie à l'égard de Thorongil et son hostilité envers Gandalf, à qui, lors de l'ascension de Thorongil, son père montrait grande estime. Denethor voulait l'emporter en connaissance et en savoir sur tous ses usurpateurs, et le cas échéant, ne pas les perdre de vue lorsqu'ils étaient ailleurs. Il convient de distinguer le point de rupture dans son affrontement avec Sauron de la tension même, inhérente à toute utilisation de la pierre. Cette tension, Denethor se croyait, non sans raison, capable d'y résister. Et on pense que l'affrontement avec Sauron n'eut lieu que beaucoup plus tard, et qu'à l'origine, Denethor ne l'envisageait nullement. Je reviendrai plus tard sur le maniement des Palantiri et la distinction entre l'utilisation solitaire des pierres à des fins de pure vision et leur usage à des fins de communication avec une autre pierre répondante et son scrutateur. Denethor put, lorsqu'il eut maîtrisé le maniement des pierres, apprendre beaucoup de choses sur les événements survenus au loin en sondant la seule pierre d'Anor. Et même après que Sauron se fut avisé de ses opérations, il put encore l'utiliser tant qu'il conserva la force de contrôler sa pierre à ses fins propres, malgré tous les efforts déployés par Sauron pour lui arracher la pierre d'Anor et la détourner à son usage personnel. Il faut aussi songer que les pierres n'étaient pour Sauron qu'une minime partie de ses vastes desseins et opérations, un moyen de dominer et de tromper deux de ses adversaires, mais il ne voulait pas, ni ne pouvait, gardait la pierre d'Iphil sous observation constante, car il n'était pas de ceux qui remettent l'usage de tels instruments de pouvoir aux mains de subordonnés. Au demeurant, aucun de ses serviteurs n'était de taille à se mesurer mentalement à Saruman ou même à Denethor. Quant à Denethor, il se trouva fortifié en sa position d'intendant et même contre Sauron lui-même par le fait que les pierres se laissaient beaucoup plus aisément manipuler par leurs usagers légitimes et singulièrement par les héritiers d'Elendil, tels Aragorn, et par ceux également qui avaient hérité d'une autorité légitime, et c'était le cas de Denethor. À bien distinguer donc de Saruman et de Sauron. Et on notera que leurs effets sur Saruman et Denethor furent différents. Saruman tomba sous l'emprise de Sauron jusqu'à souhaiter sa victoire, ou du moins il cessa de le contrer, alors que Denethor devait rester inébranlable dans son opposition à Sauron, mais en arriver à croire à la victoire de l'ennemi inévitable et s'abîmer dans un noir désespoir. Les raisons de cette différence tenaient très certainement tout d'abord à ce que Denethor était un homme d'une puissante volonté et qui maintint l'intégrité de sa personnalité jusqu'à l'effondrement final provoqué par la blessure, apparemment mortelle, du seul fils qui lui restait. C'était un homme fier, mais cet orgueil n'avait rien d'exclusivement personnel. Il aimait le Gondor et son peuple, et se croyait désigné par le destin pour les guider en ces temps obscurs. D'autre part, la pierre d'Anor était sienne de plein droit, et rien, sinon des questions de pure opportunité, lui en interdisait l'usage en ces moments d'angoisse. Il dut deviner que la pierre d'Iphil se trouvait en des mains malfaisantes, mais il risqua le contact avec elle, confiant de ses propres forces. Et sa confiance n'était pas entièrement injustifiée. Sauron ne devait jamais parvenir à le contrôler, mais seulement à l'influencer par ses tromperies. Au début, sans doute, Denethor ne chercha pas à interroger le Mordor, se contentant des vues lointaines que pouvait lui procurer la pierre, d'où sa surprenante connaissance des événements survenus à distance. On ne dit pas s'il prit contact avec la pierre d'Orthanc et avec Saruman. Il est probable que oui, et non sans profit personnel. Sauron, quant à lui, ne pouvait s'entremettre dans ses entretiens. Seul le scrutateur de la pierre maîtresse d'Osgiliath avait pouvoir d'écouter aux portes. Lorsque deux des autres pierres conversaient entre elles, une troisième les trouvait toutes les deux muettes.